admirerez au passage l'agencement des murs, extrêmement régulier, mais vous remarquerez aussi que les démolisseurs du Bas-Empire, dont je parlais tout à l'heure, ont récupéré une très grande partie des matériaux. L'aménagement de la terrasse avait donc nécessité un apport de terre encore plus considérable, surtout le côté nord dont nous venons, en raison de la déclivité naturelle du terrain. Aussi, pour mieux contenir la poussée d'autant plus forte exercée de ce côté, les architectes romains avaient prévu de renforcer le mur de soutènement du nord que nous avons vu, mais aussi celui de l'ouest, par un système de contreforts semi-cylindriques dont les vestiges très ruinés ont été découverts au nord et à l'ouest sous les remblais de la terrasse et les remblais, bien entendu, un peu plus modernes. Sur l'îlot central, dans le cadre de nos fouilles, une suite de 11 absides fut ainsi mise au jour. Certaines, vous le voyez du côté nord, certaines sont presque entièrement ruinées, d'autres n'ont conservé que la hauteur de fondation construite en fosse, c'est le cas pour celle-ci par exemple, mais une seule, la seconde à l'ouest depuis l'angle nord-ouest, celle-ci, s'est trouvée presque intégralement conservée et, chose tout à fait exceptionnelle et remarquable, elle avait également conservé son remplissage d'origine. Cela est très important car c'est l'analyse de ce remplissage qui nous a permis de comprendre le rôle et la fonction de l'ensemble du dispositif. Imaginez que d'abord l'on construit le mur rectiligne, le mur de soutènement. Au pied de ce mur de soutènement, c'est-à-dire du côté intérieur, du côté de la terrasse, une tranchée large de 2 mètres fut creusée, dégageant par conséquent la face interne de cette fondation du mur de soutènement. Le fond de cette tranchée reçut une chape de béton maigre mêlée de grave, et sur cette chape, l'on éleva une suite de murs semi-circulaires, peu épais, suite de murs dont le diamètre intérieur n'excédait pas 3 mètres. La mieux conservée de ces absides, celle-ci, absides qui étaient toutes bien entendu égales et contiguës, montre que chacune comportait une hauteur de fondation comparable à celle du mur d'enceinte, c'est-à-dire venant jusqu'à la race de briques, et complétée au-dessus par une élévation à peu près égale. Autrement dit, chaque abside était totalement fermée par la muraille contre laquelle elle s'appliquait. La partie supérieure de chacune venait s'appliquer contre les assises de grand appareil. Toutes ces alvéoles demi-cylindriques furent aussitôt entièrement comblées. Celles situées au voisinage du podium, c'est-à-dire près de la fracture du mur nord que nous avons vu tout à l'heure, reçurent un blocage de béton maigre. Les autres, par contre, c'est-à-dire celles qui nous environnent, reçurent d'abord un premier remblai composé de sable propre tiré de la tranchée de fondation et, à hauteur de la race de briques, ce premier remblai reçut une nappe de matériaux de rebut, c'est-à-dire des déchets de taille, de pierres de taille, des fragments, des mottes de mortier, des fragments de tuiles ou de briques. Ensuite, cette nappe de matériaux de rebut reçut un nouveau remblai composé de sable plus ou moins propre et mêlé de déchets de taille également et plus ou moins coloré, tout à fait identique au sable coloré, au sable rapporté de la terrasse. Autrement dit, on avait un remblai continu, terrasse, intérieur des absides. Et un petit peu plus haut, le sol dallé du péribole scellait le tout et venait jusqu'aux pierres de grand appareil. Par conséquent, noyées dans les terres d'apport dont elles réduisaient la poussée, les absides énigmatiques de l'îlot central étaient parfaitement invisibles à l'époque romaine. Dès le Bas-Empire et encore au Moyen-Âge, les contreforts intérieurs de la terrasse furent démantelés et leurs matériaux réutilisés.